Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce samedi matin. Que vous soyez tranquillement installé chez vous, peut-être dans votre cuisine, à préparer votre petit-déj. Que vous soyez sur la route, restez prudent surtout. Ou encore que vous soyez au travail ou en télétravail. Merci à vous d'être au rendez-vous entre 9h15 et 10h sur RTL. Vous attendez impatiemment les sujets de la semaine dans Nous voilà bien. Eh bien allons-y, voici le sommaire. Une fois nos comptes installés dans une banque, on ne pense pas toujours regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Et pourtant, quels sont les avantages à changer de banque ? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL, vous fait gagner du temps et de l'argent. C'est le produit indispensable dans nos maisons, celui qui fait de véritables petits miracles. Alors comment utiliser le vinaigre blanc ? Réponse avec Régine Keva, auteure de livres pratiques à base de produits naturels. Le retour de ce légume du soleil sonne bon l'arrivée prochaine de l'été. Comment cuisiner l'aubergine ? Sonia Esguignan vous donne ses imparables trucs et astuces pour vous régaler. Et bonjour Armelle Lévy.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Les banques font parfois des offres aux nouveaux clients bien plus intéressantes que les contrats des anciens clients. Alors la fidélité, c'est pas toujours récompensé.
C'est tout à fait vrai. Il n'y a qu'à voir quand vous cherchez un crédit immobilier ou un prêt étudiant. Vous êtes pourtant dans la même banque depuis des années, souvent la même que celle de vos parents d'ailleurs. Non seulement votre banque ne vous propose pas le meilleur taux du marché, mais elle ne vous propose pas non plus le meilleur tarif qu'elle peut faire. C'est décevant. Mmh. On a le sentiment que la banque est plus intéressée à faire venir de nouveaux clients qu'à nous garder comme clients. Ce qui se passe, c'est comme la banque récupère pas mal d'argent avec tous les frais d'incidents bancaires payés par les publics fragiles, eh bien chaque année, elle va chercher à compléter avec de nouveaux clients qui, eux, ont du patrimoine pour équilibrer. Et le profil change tous les ans selon la politique de la banque. Une année, elle va attirer les trentenaires, une autre les quinquagénaires ou les retraités. Et effectivement, la banque n'hésite pas à vous laisser partir parce qu'elle sait qu'elle va attirer les nouveaux profils qu'elle recherche.
Alors quand on a nos habitudes dans une banque, on ne se pose pas la question de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs. À tort, j'imagine.
Eh ben ça dépend. Hein. Ah oui ? Ce n'est pas comme les assurances qui font tout pour attirer les nouveaux clients en proposant des offres en dessous du marché pour les augmenter ensuite très fortement, ce qui vous pénalise si vous restez trop longtemps. Là, qu'on soit nouveau ou ancien client, les tarifs en fait sont globalement les mêmes pour tout le monde. Si vous changez de banque, vous pouvez avoir 80 euros d'offerts à l'ouverture d'un compte, la carte bancaire gratuite pendant un an, mais ce n'est valable qu'une fois, au début. Donc si vous vous entendez bien avec votre conseiller, si vous êtes satisfait, il vous répond quand vous l'appelez, l'agence est à côté, vous n'avez pas intérêt à changer de banque parce qu'une autre concurrente ne fera pas forcément mieux. Et puis, il faut faire la démarche. On se dit que c'est fastidieux, même si les procédures ont été
simplifiées. On a la flemme un peu.
C'est ça. Dans les faits, seulement 7% des Français changent de banque chaque année.
Quels sont les avantages à changer d'établissement bancaire ?
Eh bien, il y a un avantage d'abord humain. Vous trouvez que votre banque vous traite mal, le conseiller vous énerve, ça ne se passe pas bien. Vous claquez la porte de la banque et vous allez tout mettre dans la banque d'à côté. Pendant longtemps, c'était ça. Mais maintenant, cela ne se passe plus vraiment comme ça. 40% des nouveaux comptes ouverts le sont dans une banque en ligne, parce que les banques en ligne sont en réalité beaucoup moins chères. Donc l'avantage aujourd'hui, il est surtout financier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul de savoir combien vous payez de frais bancaires chaque année.
Non, pas vraiment.
Eh bien, dans une banque traditionnelle, les frais bancaires coûtent en moyenne entre 15 et 18 euros par mois. Si vous passez d'une banque traditionnelle à une autre banque traditionnelle, vous pouvez faire 30% d'économie. 30% d'économie, cela correspond à 50 euros par an. Donc vous payez en moyenne 180 euros au lieu de 220. Donc on se demande si le jeu en vaut vraiment la chandelle. En revanche, si vous passez d'une banque traditionnelle à une banque en ligne, là vous sentez vraiment la différence. Les frais sont bien souvent en dessous de 10 euros par an. La banque en ligne, c'est ce qu'il y a de moins cher, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il n'y en a qui n'aiment pas du tout et qui veulent absolument voir leur conseiller. Donc la vraie question avant de changer, c'est est-ce que quand je paye des frais plus élevés dans une banque traditionnelle, j'ai le service qui va bien en face ?
Eh oui, et souvent c'est ça le paradoxe, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont rassurés par le fait d'avoir une agence à côté de chez eux. Mais en fait, si on réfléchit, on n'y va jamais.
C'est vrai.
C'est quand même bizarre.
C'est ça, donc ils payent plus cher pour un service qu'ils n'utilisent pas,
c'est ça.
Puisqu'ils font déjà tout en ligne. Donc ce qui se passe réellement aujourd'hui, quand quelqu'un décide de changer de banque, il ouvre un compte dans une banque en ligne, il teste la banque en ligne pour voir comment ça se passe, et seulement après, il décide de changer définitivement et de tout transférer. Donc on fait des changements, mais qui restent très 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 progressifs.
Alors la question aussi, c'est comment connaître facilement les offres des banques concurrentes ?
Alors, bon courage !
Oui, parce qu'elles ne viennent pas forcément à nous.
Oui, les banques sont obligées d'afficher leurs tarifs standardisés sur leur site internet, donc c'est public. Et il y a aussi les packages différents selon les banques, donc c'est très difficile de comparer. Il faudrait passer un temps fou à tout éplucher. Comme dit Olivier Guéraud de la CLCV, c'est une association de consommateurs, ouais. Les tarifs des banques sont des petites bibles. Donc heureusement, il y en a qui font déjà tout le travail. Vous trouvez des comparateurs des associations de consommateurs, qui sont des comparateurs par profil, et des comparateurs sur Internet qui vous proposent des offres clés en main en fonction de vos besoins, comme Moneyvox, Panora Bank, Meilleur Bank, Les Furets, Le Lynx.
Ouais.
Mais ça vaut quand même la peine de regarder. Je vous donne l'exemple du comparateur de l'UFC Que Choisir, qui inclut les banques en ligne. Les écarts de tarifs varient de 1 à 6 pour le profil senior haut de gamme, de 1 à 17 pour une personne en activité, et de 1 à 11 pour un jeune qui a un usage intensif de son compte, y compris des dépassements de découverts autorisés. Donc en moyenne, si vous quittez votre banque pour une banque en ligne, un senior peut réaliser 195 euros d'économie par an. Un actif, 177 euros. Et un familier du dépassement des découverts, donc assez jeune, pas moins de 224 euros.
Mais c'est pas rien, donc ça veut dire qu'on peut quand même faire des économies en changeant d'établissement bancaire.
Exactement, ou même simplement en faisant un point chaque année sur ce que vous coûte vraiment votre banque, ouais. En frais de fonctionnement normal du compte et en frais d'incident bancaire. Alors débarrassez-vous des options ou des packages que vous payez en plus et que vous n'utilisez jamais, comme un forfait anti-découvert, 4 euros par mois. Si vous n'êtes jamais à découvert, ce n'est pas la peine de le payer pour rien. En fait, il y a un vrai décalage entre l'information que vous avez, donc ce que vous pensez avoir, et ce qui se passe dans la pratique, c'est-à-dire ce que vous payez vraiment.
Vous parliez de la flemme tout à l'heure, Armelle Lévy, mais c'est vrai qu'on l'a parce que ça nous semble hyper contraignant de changer de banque.
Ah oui, quand même, hein, ouvrir un compte, ça prend officiellement 2 minutes, mais pour transférer d'une banque à l'autre, vous avez 2 possibilités. Soit vous le faites tranquillement. Vous vous laissez le temps, vous basculez progressivement toutes vos opérations dans la nouvelle banque en faisant attention d'avoir suffisamment d'argent sur les deux comptes pour ne pas être à découvert. Vous surveillez également tous les chèques que vous avez émis et qui ne sont pas encore encaissés parce que les rejets de chèques, ça coûte très cher. Si le compte est fermé et que votre chèque est rejeté, vous pouvez même vous retrouver fiché à la Banque de France et donc interdit de checker.
Donc galère.
Donc vous fermez votre ancien compte seulement quand tout est transféré. Soit, la deuxième possibilité, vous voulez changer tout de suite du jour au lendemain.
Mais alors, si je veux changer tout de suite du jour au lendemain, quelles sont les démarches que je dois faire ? Est-ce qu'on m'aide un peu ?
Alors, c'est la loi Macron de 2015. Pour simplifier les choses, vous signez un mandat de mobilité bancaire auprès de votre nouvelle banque. Elle s'occupe de tout. Elle prévient l'ancienne.
Ah bah
les
voilà.
Deux banques se coordonnent. La nouvelle banque va chercher tous vos virements et vos prélèvements. Elle prévient votre employeur, votre fournisseur de gaz et d'électricité, que vous avez un nouveau numéro de compte. C'est gratuit. Mais malheureusement, il y a encore des ratés, des décalages qui vont créer des tracas. L'ancienne banque ne prévient pas à temps les émetteurs, le salaire arrive encore sur l'ancien compte et en face les factures s'accumulent sur le nouveau compte, ce qui entraîne des pénalités et des frais d'incident bancaire. Résultat, l'an dernier, seulement 2,5% des Français ont utilisé ce mandat de mobilité bancaire, 1,3 million seulement, ce n'est vraiment pas beaucoup.
Non, c'est pas grand-chose. On se retrouve dans un instant, Armelle Lévy, encore évidemment des questions à vous poser à ce sujet. Ensuite, on parlera de la star de nos cuisines, tant pour le ménage que pour l'alimentaire aussi, c'est le vinaigre blanc. Et puis Sonia Esguillon nous parlera des aubergines. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Deux stars à l'honneur en ce samedi matin dans Nous voilà bien. Merci d'être avec nous jusqu'à 10h. Le vinaigre blanc, l'aubergine, j'oubliais la troisième et la meilleure, Armelle Lévy. Armelle Lévy, vous êtes quand même notre star, hein, notre star du samedi matin. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL et chaque samedi, vous nous aidez à faire des économies. Soyez-en remerciés. Aujourd'hui, on parle de changer de banque. Voilà, vous nous expliquez effectivement qu'il faut être averti, hein, et que ça peut nous paraître contraignant. Quels sont les délais de transfert d'une banque à une autre ?
C'est pas long, 1 mois, mais vous pouvez demander sur le mandat à conserver 2 comptes pendant 2 ou 3 mois pour vérifier
d'accord.
que tout est bien transféré.
En fait, c'est ça la problématique, hein. C'est de faire table rase d'un passé, je dirais, pour pouvoir construire un futur, donc il y a beaucoup d'opérations à faire. Donc admettons, si je décide de changer de banque, je peux transférer n'importe quel compte, même mes assurances vie qui sont dans une autre banque ?
Alors non, les assurances vie, on ne peut pas les transférer, ça c'est assez pénible, mais d'une manière générale, comme le conseille Maxime Chipoy du site Moneyvox, si vous avez une assurance vie dans une banque traditionnelle, Noël, mieux vaut carrément la fermer et en ouvrir une autre dans une banque en ligne ou chez un assureur en ligne. Pourquoi ? Parce que les frais de versement sont encore très élevés, 4-5%. Si vous mettez 100 euros dessus, on vous compte 96. Alors que dans une banque en ligne ou chez un assureur en ligne, vous mettez 100, on vous compte 100.
D'accord.
Donc c'est plus rentable, vous gagnez 2 ou 3 ans d'intérêt déjà. Donc il ne faut pas hésiter à changer. Ensuite, il y a le livret A, qui n'est pas non plus transférable d'une banque à l'autre. Vous devez le fermer et en ouvrir un autre dans la nouvelle banque. Mais là encore, ça se fait très facilement, c'est sans frais et c'est gratuit.
Donc on ne doit pas s'acquitter de frais en fait ?
Non, pas pour le transfert du compte courant, mais en revanche, il y a d'autres produits d'épargne comme le PEL, le plan d'épargne logement, là, où le transfert est payant et pas qu'un peu, parce que votre nouvelle banque ne sera pas forcément ravie d'accueillir votre vieux PEL. Elle devra le rémunérer 3% ou même 5%, alors que si vous en ouvrez un aujourd'hui, c'est rémunéré seulement à 1%. Donc certaines mettent des frais énormes, par exemple 60 euros pour transférer ce PEL, pour vous inciter en réalité à le fermer. Et ça, c'est un vrai frein à la mobilité bancaire. Les banques ne jouent pas le jeu. 4 fois sur 10, selon l'UFC Que Choisir, les consommateurs conservent leur ancien compte en plus du nouveau à cause du transfert artificiellement difficile et onéreux de certains produits d'épargne.
Et est-ce que la banque qui est quittée peut être comme un amoureux ou une amoureuse que l'on quitte, c'est-à-dire compliquer les choses?
Oui, si. L'ancienne banque peut se montrer extrêmement tatillonne, on va dire. Elle va, par exemple, dire que ce qui est rempli n'est pas correct. Vous entrez votre nom sans préciser votre nom de jeune fille, elle va bloquer. Vous avez 10% des mandats de mobilité bancaire aujourd'hui, selon l'UFC Que Choisir, qui n'aboutissent pas parce que le dossier est soi-disant mal renseigné. Ouais, oui. Et là, c'est énorme.
Alors, on a des recours?
Oui, vous pouvez le signaler aux médiateurs de la banque ou aux associations de consommateurs ou à l'APCR, qui est le gendarme des banques. D'ailleurs, mon petit doigt m'a dit que l'APCR, justement, allait enquêter très prochainement sur ces obstacles à la mobilité bancaire pour faire appliquer cette loi Macron de 2015.
Et vous nous tiendrez évidemment au courant. Merci pour toutes ces infos, Armelle Lévy. Comme chaque samedi matin, c'était très éclairant. On va nous se retrouver dans un instant pour parler du vinaigre blanc. Vous connaissez, je suis sûre que vous en utilisez.
Oui, sur mes poignées de porte, partout en fait.
Eh bien voilà, eh bien, c'est la star de la cuisine et on en parle avec Régine Keva dans un instant. Salut Armelle. Merci à vous. Bonjour Régine Keva.
Bonjour Flavie, bonjour tout le monde.
Quand j'écoute Zouk Machine, je pense à vous Régine.
Ah merci, c'est gentil.
Vous êtes auteur de livres pratiques à base de produits naturels, notamment fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing, ses produits d'entretien, je l'ai chez moi. Et c'est édité chez Larousse. Qu'est-ce que c'est que le vinaigre blanc?
Ah, le vinaigre blanc, il est connu sous plusieurs noms. Vinaigre blanc, vinaigre d'alcool, vinaigre de cristal. En fait, c'est un vinaigre obtenu à partir de betteraves ou de maïs, tout simplement.
C'est du vinaigre qui pue.
Ah, disons que quand on l'utilise pur, ah oui, mais il ne faut jamais l'utiliser pur.
Non, mais ça, j'ai bien compris, on va en parler, mais c'est vrai qu'un jour, il m'est arrivé de mettre le nez au-dessus de la bouteille et j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Est-ce que c'est comestible, le vinaigre blanc ?
Absolument, c'est complètement comestible. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis qu'on a laissé des fruits un petit peu se dégrader, on s'est dit, tiens, ça fait du vinaigre, voilà. Mmh. Et ça a servi à ajouter un petit piquant, c'est le cas de le dire, dans une tonne d'aliments. Donc oui, bien sûr, c'est comestible.
Alors, on ne prend jamais de vinaigre blanc pour faire sa vinaigrette, hein ?
Enfin, c'est gâché.
Voilà, exactement. Mmh. En tout cas, ce n'est pas l'utiliser pour ses grandes propriétés. Quelles sont-elles, justement ? Quelles sont ses vertus et ses avantages?
Alors l'intérêt du vinaigre blanc, c'est qu'il est dégraissant, il est détartrant, désinfectant, antiacide, bactéricide, antifongique, conservateur, antiseptique, je vais m'arrêter là, anti-inflammatoire, relaxant, astringent, c'est pas mal, non?
Il fait le café le matin aussi ou pas?
Alors il peut détartrer la cafetière, c'est ça qui est bien, mais il faut rincer plusieurs fois, sinon oui.
L'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher du tout.
0,30 le litre, si vous l'achetez plus cher, vous changez de crèmerie.
Voilà, parce que parfois, comme c'est devenu tendance aussi, on le retrouve, mais dans certaines enseignes bio à des prix hallucinants, même dans certains supermarchés où on vous le vend comme la star de votre cuisine. Et en réalité, effectivement, c'est beaucoup trop cher, donc ça ne coûte pas cher. Mais on parle d'un produit miracle, en fait, pour pas cher.
Alors, on parle d'un produit qui rend nombreux services, c'est l'intérêt des produits naturels, ils ont de multiples propriétés, et pour chacune de ces propriétés, on peut avoir un usage. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai cité de nombreuses propriétés, donc de nombreux usages.
Certains se demandent si ça tue les microbes, parce qu'on a l'impression, effectivement, que c'est hyper efficace, mais pas jusque-là, quand même.
Non, pas jusque-là. Vous savez, il y a une légende qui s'appelle la légende des quatre voleurs. Bon, j'ai cherché très, très longuement pour retrouver l'histoire de cette légende.
Moi, je ne la connais pas.
C'était pas quatre voleurs, c'était deux assassins, c'était pas à Marseille, c'était à Toulon, etc. Donc, on lui a prêté des vertus anti-peste. Bon, c'est faux, hein. Ça va rendre des services un peu antimicrobiens, un peu antibactériens, mais non, c'est pas la panacée, faut pas exagérer.
Bon, qu'est-ce qu'on peut nettoyer avec du vinaigre blanc ? Moi, j'ai tout essayé.
Ah oui, vous avez tout essayé ?
Oui, bah oui, parce que écoutez... J'ai essayé plein de trucs. Écoutez, moi, c'est simple, j'en ai dans toutes les pièces de la maison, enfin, je dirais toutes les pièces d'eau, ma salle de bain, ma cuisine, les toilettes, et voilà, et je m'en sers, en fait, tant pour nettoyer mes légumes que pour nettoyer mon four, quoi. Donc,
et ben voilà, voilà, c'est tout à fait ça. Bon, déjà, dans les légumes, oui, une pincée, ça fait de mal à personne, sauf aux petits vers de terre qui sont encore là, évidemment, ils m'excuseront, mais moi, j'en mets, puisque je prends les légumes du jardin, je ne peux pas laver mes légumes sans mettre une pincée. C'est une giclée plutôt de vinaigre.
Ouais, pareil.
Ensuite, c'est un détartrant. Alors, n'achetez plus de produits de rinçage de la vaisselle. Remplacez-le par du vinaigre. Dans votre lave-vaisselle, paf, c'est du vinaigre qu'on met. Et ça marche très bien.
Et c'est pas le même prix. Oh, c'est hors de prix, liquide de rinçage. Hors de prix.
Mais oui, là, vous avez 0,30 le litre. Hein.
Donc ça, je le mets à la place. Ah oui, vous savez, c'est un rinçage, j'y avais pas pensé. Alors,
oui.
Pour le coup. Génial.
Alors, en déboucheur, en désinfectant, des toilettes, bien sûr, mais aussi du bac de douche, mais aussi de l'évier. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend du bicarbonate, on le verse généreusement, on couvre de vinaigre, pouf, réaction acide de base, etc. Ça nettoie, ça désinfecte, ça retire les odeurs, ça purifie. Voilà.
Bon, on va se retrouver dans un instant parce qu'on va continuer à parler du vinaigre blanc. C'est marrant, vous avez parlé du bicarbonate de soude et effectivement, c'est un mélange qui mousse, mais qui est un mélange mousse costaud. On va s'en parler dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
C'est le légume du soleil, il y en a partout. Dans un instant, Sonia Esgulian va nous donner des recettes avec des aubergines. Mais pour l'heure, Régine Keva nous parle du vinaigre blanc. Vous reconnaissez ce générique ? C'est l'émission C'est du propre sur M6, parce qu'avec le vinaigre blanc, on a l'impression qu'on peut tout faire en fait, Régine Keva.
Oui, on peut faire beaucoup de choses. C'est le produit de base quand on fait ses produits soi-même. On en met même un tout petit peu dans la lessive parce que ça augmente son activité détersive, par exemple, vous voyez ?
Ça veut dire quoi, détersif ?
Détersif, détergent, détergé.
D'accord, ok, détersif.
Nettoyer.
D'accord.
Donc en fait, comme le vinaigre sépare les graisses, si on met un petit peu de vinaigre dans la lessive maison, eh bien on va avoir une lessive plus puissante.
D'accord, je n'avais pas compris. Vous parliez de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Vous savez, moi, quand je cuisine mon plat, par exemple, que je sors du four, si j'ai pas mal de choses qui se sont accrochées au fond du plat, je mets bicarbonate de soude, je recouvre de vinaigre blanc, ça se met à mousser, c'est un peu impressionnant, et je laisse ça toute la nuit. Est-ce que c'est une bonne idée ?
C'est une excellente idée parce qu'en fait, ils vont aider à nettoyer la graisse, ils vont attaquer gentiment, tranquillement les structures, ils vont les ramollir et ça va vous nettoyer votre plat. Donc c'est une très bonne idée, Flavie.
Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients, si je puis dire, avec lesquels je peux marier le vinaigre blanc qui vont pouvoir changer ma vie ?
Moi, j'utilise pas mal l'argile. Bon, le bicarbonate, on a bien compris. Et puis, ça rend Marseille en paillettes. Alors là, c'est vraiment intéressant.
Mais pourquoi, alors, par exemple, l'argile ?
Alors, l'argile, c'est un antibactérien, un antimicrobien, un antifongique, un adoucisseur de la peau. Et ça va capter virus et bactéries. Donc, et puis, c'est une terre dégraissante. Donc, on a énormément d'usages intéressants avec l'argile.
Oui, mais pour faire quoi, par exemple ? Je peux me faire un masque avec de l'argile et du vinaigre blanc ?
Ah bah oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du vinaigre, mais à ce moment-là, peut-être un vinaigre de cidre qui est encore meilleur pour la peau. On va se faire un masque en prenant de l'argile qu'on va mélanger à de l'eau et on va ajouter du vinaigre. Ça va apporter une fluidité à l'ensemble et ça va nettoyer la peau. Et comme je disais tout à l'heure, c'est astringent, donc ça va nettoyer les points noirs, etc. C'est remarquable.
Donc l'argile, vous m'avez dit, et est-ce que l'argile, on peut s'en servir autrement que pour des masques de beauté ?
Oui, alors l'argile, c'est très bon pour la santé. Si on prend un peu d'argile, une petite cuillère à café d'argile qu'on met dans de l'eau, ça revient à prendre du Smecta, hein, sauf que c'est 90 fois moins cher.
D'accord.
Donc ça va nettoyer la sphère gastrique, la sphère intestinale, un petit peu des parasites, des difficultés à digérer. C'est formidable en cataplasme.
Ok, produits ménagers, je peux tout faire avec du vinaigre blanc, mais je peux mélanger du vinaigre blanc, par exemple, à mon produit vaisselle, histoire d'en vont booster la...
Non. Alors, si le produit vaisselle est maison, oui. Sinon, alors surtout, dès qu'on fait ces produits, on oublie l'eau de Javel, ça. On l'apporte à la déchetterie, elle se recycle en produits dangereux et toxiques, c'est pour vous dire à quel point c'est dangereux. Donc, on oublie définitivement l'eau de Javel. Et ensuite, on ne mélange surtout pas nos produits naturels avec les produits du commerce. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a un vrai risque d'association toxique.
D'accord.
Donc,
okay.
On peut mélanger le vinaigre avec de l'argile, du savon noir, du percarbonate de soude, des choses comme ça, c'est vraiment bien. Mais on oublie les produits du commerce. Soit on passe produit maison et on commence gentiment un produit, deux produits, trois produits. Voilà, on prend son temps pour changer de vie. Mais en aucun cas, on ne va pas mélanger ensemble des produits qu'on achète et des produits qu'on fait.
Très bien. Est-ce qu'il faut rincer le vinaigre blanc ?
Non, pas spécialement. Si on l'a utilisé mélangé, c'est-à-dire coupé avec de l'eau, on n'a pas à rincer. Moi, je fais un produit multisurface, vous croyez que je vais rincer ?
Bah non, franchement. Je suis d'accord. Mais alors, en revanche, est-ce qu'il y a un moyen de chasser un peu son odeur ? Parce que moi, j'ai remarqué...
Oui, on va... Par exemple, pour un produit multisurface, on va prendre un petit récipient, on va mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude et on va mettre de l'huile essentielle. Une goutte dans le bicarbonate, on va mélanger. Ensuite, on va mettre du vinaigre, on va attendre que ça mousse, que ça mousse, que ça mousse, et quand tout sera fini, par exemple on va mettre un verre de vinaigre blanc, et quand toutes les réactions seront terminées, on mettra autant d'eau. Et là, on met en pulvérisateur, on a un produit multi-surface, nettoyant surface, qui a été testé en laboratoire, et qui est remarquable, et qui va nous coûter 0,05 euros, je crois, le litre.
En fait, quand je vous écoute, on va se dire que, on va essayer de se faire la liste rapide, là, des produits dont on n'a plus besoin lorsqu'on a un vinaigre blanc. Non mais sérieusement, il y a quoi ? Donc... Des produits des toilettes.
Bah, en fait, on n'achète plus rien, quoi. Je veux dire, on fait tout avec du vinaigre, du bicarbonate, du percarbonate, du savon noir, du savon de Marseille liquide, du savon de Marseille, toujours le bon savon de Marseille. Eh bien, voilà, j'ai à peu près tout cité. Avec ça, on fait tout dans la maison. Et encore une fois, certains produits, il y en a au moins 4 qui ont été testés en labo, ça marche.
Eh bien, dites donc, on va faire des économies, on va pouvoir aller dépenser de l'argent ailleurs grâce à vous. Hein, merci.
Oui, on va
beaucoup.
Gagner du temps aussi. Et puis, bah, ça fait du bien à tout le monde, et puis ça fait du bien à la planète, bien sûr. Il n'y a pas de rejet toxique, il n'y a pas de rejet toxique sur la peau, il n'y a pas d'inhalation mauvaise, vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est quand même agréable, Flavie, de savoir faire soi-même les choses.
Exactement.
Ça nous rend libres,
exactement,
d'une certaine manière.
Voilà, et on peut le faire grâce à vos livres pratiques à base de produits naturels, et notamment fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing, ses produits d'entretien chez Larousse. Merci beaucoup, Régine Kéla.
Merci, Flavie.
À bientôt sur RTL. Au revoir, Régine.
Au revoir.
Comme tout, c'est des vilaines copines, elles nous bouffent tout nos
Moi, je connaissais d'autres paroles hein, sur cette chanson, les aubergines, donc des Charlots. Bonjour Sonia Esguignon.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, on vous connaît, vous êtes cuisinière, auteure et journaliste. Et dites-moi, vous nettoyez vos légumes avec justement du vinaigre blanc, vous comme le...
Oui, les salades, oui, ça c'est top, le vinaigre blanc dilué un petit peu pour les salades, les poireaux, tout un tas de légumes, c'est vraiment top.
Voilà, et effectivement, c'est rien et on les nettoie mieux, ces fameux légumes. Dites-moi, l'aubergine, c'est vraiment le légume du soleil par excellence, quoi. Moi, je trouve que ça... Vous savez quoi, ça annonce... Exactement. Et puis, alors là, je sais pas, ça annonce un déconfinement, ça annonce les vacances. J'étais contente de revoir des aubergines, moi.
C'est vrai. Alors moi, je les ai plantées. J'ai adoré, j'ai planté mes petits plants d'aubergines.
Mais quand ?
Ben aujourd'hui, aux aurores, j'ai planté mes petites aubergines parce que les saints de glace sont passés.
Oui.
Donc voilà, et donc on peut planter les petites aubergines parce que j'aime bien les variétés qu'on trouve pas forcément sur le marché. Par exemple, des aubergines blanches qui ressemblent à un œuf.
Oui.
Ça, j'adore. C'est vraiment très sympa pour farcir. Qu'est-ce que j'ai planté d'autre aussi ? Ah oui, j'ai planté des monstrueuses de New York. C'est des aubergines qui font plus de 2 kilos. Spéciale famille nombreuse. Donc voilà. L'idée, c'est d'avoir plein de variétés différentes.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si on dit que l'aubergine, là, on la retrouve sur nos étals, pourquoi est-ce qu'on la plante aussi maintenant ?
Parce que celles qu'on trouve maintenant, ce sont des variétés différentes. Par exemple, en ce moment, sur les marchés, on a la barbontane qui est une aubergine longue, allongée, et plutôt sombre.
Oui.
Et on a les fameuses siciliennes qui sont plutôt rondes, un petit peu plus grosses qu'un melon et avec des toutes petites nuances fleurs plus violettes.
D'accord, effectivement, ce sont celles que j'ai vues, ce sont celles dont on va parler aujourd'hui.
Oui, ce sont les siciliennes, elles sont extraordinaires parce que à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de petites graines, moi j'adore.
Et bien dans un instant, nous allons cuisiner la sicilienne grâce, grâce à Sonia Esguillon. A tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
On est ensemble jusqu'à 10h et comme très souvent le samedi matin, Sonia Esguillon est là pour éveiller nos papilles.
C'est si bon. So I say to you.
C'est si bon, la sicilienne. Donc aujourd'hui, on parle avec vous de l'aubergine, Sonia Esguillon. Comment est-ce que je choisis une belle aubergine?
Alors d'abord, elle est bien lisse, bien ferme, parce que les aubergines qui sont un petit peu fripées, là, ça va être moyen. D'abord, souvent, ce sont des aubergines, ensuite, à l'intérieur, qui vont avoir beaucoup de pépins, et elles ont été cueillies depuis trop longtemps. Donc celles-ci, on ne les utilise pas. Après, tout va dépendre de la recette, parce que c'est un petit peu toujours la même chose. C'est tout dépend de ce qu'on va faire de cette aubergine. Mmh. Alors, en général, quand on fait des recettes, par exemple, où on utilise la peau, parce que certaines recettes, on peut enlever la peau des aubergines. Moi, je conseille, par exemple, d'utiliser les siciliennes ou les aubergines plutôt violettes, parce qu'il en existe plein d'autres dans cette grande famille des aubergines. Et là, ce sont des aubergines qui ont une peau très fine, à la différence de ces fameuses aubergines beaucoup plus foncées, allongées et presque noires, qui, elles, ont une peau un peu plus épaisse. Alors là, ce sera, par exemple, formidable pour faire des lamelles qu'on va faire griller soit à la poêle, soit sur la plancha. On va simplement les mettre avec un petit peu d'huile d'olive et de faire des petites préparations d'antipastis, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est pas gênant. On peut avoir cette peau un peu plus épaisse. En revanche, pour certaines recettes, je trouve que c'est bien de prendre ces aubergines rondes, notamment les fameuses siciliennes qu'on trouve en ce moment, parce que vraiment, elles sont très charnues à l'intérieur et elles ont une peau très fine.
Et dites-moi, ça se mange jamais cru, une aubergine?
Ah non.
En train d'y passer,
alors là,
en vous écoutant, c'est pas bon du tout.
Non, non. Alors après, il y a vraiment des astuces de cuisson, parce que l'aubergine, son principal problème, c'est que si on la cuit juste à l'huile d'olive, c'est une vraie pompe à huile. C'est terrible, parce qu'on a l'impression que pour la cuire, il faut en remettre de l'huile et encore en ajouter.
Et c'est le cas ou pas, alors?
Bah, si on ne fait rien, oui. Alors, il y a deux astuces qui sont topissimes. Première astuce, je prends mes aubergines. Tout à l'heure, je vais vous parler d'une recette où j'ai besoin, donc, pour cette recette, de tranches d'aubergines un petit peu épaisses. Donc, on va dire un petit centimètre d'épaisseur. Je prends mes aubergines, je les coupe. Je les mets sur un petit plateau ou dans un plat à tarte, par exemple. Je mets un peu de gros sel dessous, un peu de gros sel dessus, et je les laisse dégorger pendant une heure. Ensuite, je les essuie bien et je les fais cuire. Là, déjà, beaucoup moins d'huile absorbée. Et alors, le top du top, ça, c'est ce que j'utilise maintenant depuis quelques années. Je les fais pré-cuire à la vapeur. Je coupe mes aubergines en tranches, je fais chauffer de l'eau, je pose le panier vapeur, je mets les aubergines au-dessus, et je fais cuire, alors admettons, pour une belle tranche d'aubergine d'un centimètre, je fais cuire 5-6 minutes à la vapeur, et ensuite, je la tapote un petit peu sur du papier absorbant, et ensuite, je la cuis naturellement, comme j'ai envie pour ma recette. Je mets un peu d'huile dans la poêle, et je vais la faire dorer. Et là, l'aubergine ne va pas complètement absorber l'huile. Et surtout, elle va prendre une belle coloration sans qu'on soit obligé d'en rajouter.
À propos de coloration, j'y pense, elle noircit super vite quand on la coupe, l'aubergine. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Eh oui, soit on travaille très vite, soit on peut, évidemment, comme beaucoup de préparations, on les fait tremper dans de l'eau, ou alors on peut juste les citronner très légèrement.
Et je pensais aussi à leur conservation. Vous savez, parfois, quand une aubergine, bon, on va l'acheter, elle est lisse, elle est fraîche, et puis on la conserve, et quand on la reprend, on sent qu'elle est un petit peu vieille parce que du temps a passé. Quand on la coupe en deux, il y a des petits pépins qui sont très présents. Est-ce qu'elle est toujours consommable?
Oui, oui, elle est consommable. Après, c'est pas agréable. Alors moi, ce que je fais, c'est vous avec une cuillère, vous prélevez en fait. C'est comme si on enlevait toute une ligne en fait de pépins. Donc on enlève ça parce que franchement, c'est pas très agréable à la dégustation.
Mais elle est toujours bonne.
Elle est toujours bonne. Alors dans ces cas-là, moi souvent quand l'aubergine elle est un petit peu flétrie, on va dire, là ça vaut le coup de la couper en deux, d'enlever les pépins, faire un petit quadrillage avec la pointe du couteau, ajouter un petit peu d'huile d'olive, la mettre au four. On va obtenir une petite purée d'aubergine quand ça sera bien gratiné, qui sera délicieuse, qu'on va mélanger ou pas avec une sauce tahini ou avec un petit fromage blanc.
Comme le baba ganoush.
Voilà, et là c'est top. On ne s'embête pas la vie, c'est absolument délicieux.
Ah, c'est délicieux.
C'est délicieux.
C'est calorique
c'est frais,
en fait ou pas
Alors, l'aubergine en elle-même, tout dépend comment vous allez la cuire. C'est sûr que plus elle cuit avec de l'huile d'olive, parce qu'en elle-même, quand elle est cuite juste à la vapeur, elle n'est pas très calorique. C'est quand on ajoute beaucoup, beaucoup d'huile. Alors bon, juste pour ne pas vous déprimer, mais la sauce tahini, c'est du sésame, donc
ouais,
c'est riche.
C'est bien, c'est...
Non, donc
ça,
on y
c'est
va mollo. Non mais voilà, on fait comme si on ne se rappelait pas, comme c'est bien frais, ça passe bien. Ça. On se dit, oh, c'est léger, tout formidable.
Mais c'est vraiment très, très bon. Alors est-ce que la recette que vous allez nous livrer justement là aujourd'hui est aussi délicieuse et calorique que le baba ganoush?
Un petit peu moins.
Moins
parce
calorique.
Alors, il y a deux versions. Il y a la version très gourmande et la version très raisonnable. Vous choisirez la version que vous voulez.
Moi, je prends la gourmande. Allez, c'est parti. On vous écoute.
En fait, ce sont des aubergines super fastoches à préparer. Ça fait un très beau plat. On coupe les aubergines, les fameuses donc siciliennes, en tranches épaisses, 1 cm. On les fait cuire 7-8 minutes à la vapeur dans le panier. On les laisse un tout petit peu refroidir. Et pendant ce temps-là, on va préparer une sauce comme le vitello tonnato. Je ne sais pas si vous aimez cette sauce. Moi, je l'adore. Je
délicieux.
Fantastique pour l'été, quand on veut manger des viandes froides, etc. Donc, normalement, la sauce classique, ce sont du thon au naturel, donc dans une boîte, qu'on mixe avec des anchois, des câpres et de la mayonnaise. Moi, je trouve ça un peu riche, et puis surtout quand on mange dehors, quand il fait très chaud, je trouve que c'est pas top de laisser le plat comme ça très longtemps. Donc, j'ai remplacé la mayonnaise par du mascarpone. C'est un petit peu riche, mais quand même beaucoup plus léger.
Okay.
Et donc, je fais exactement le même principe. Je mixe 200 g de thon naturel avec 3 filets d'anchois, une cuillère à café de câpre au sel. Je mets 150 g de mascarpone. Ça me fait une sauce très onctueuse. Et là, je vais napper la moitié de la sauce sur un très beau plat de service. Je dépose mes tranches d'aubergine épaisses qui sont cuites à la vapeur. Je recouvre de sauce vitello tonnato. Je mets quelques olives, du basilic pourpre, quelques câpres aussi, ça fait très joli. Et je sers ce plat très frais. C'est délicieux, c'est un très joli plat. Et franchement, c'est frais et c'est très joli à présenter pour les tables des beaux jours.
Ça, voilà. C'était la version gourmande?
Non, c'était la version là. Et la version gourmande, c'est avec la mayonnaise, évidemment.
D'accord, d'accord. Dis donc, ça a l'air bien délicieux tout ça. Cette recette, on va la retrouver sur nos réseaux sociaux et puis sur votre page Instagram aussi, Sonia.
Oui, bah oui, parce que j'adore partager les recettes avec vous. Donc voilà.
Merci beaucoup, en tout cas. Donc votre page Instagram et puis vous parliez justement de légumes. Je conseille votre livre chez Flammarion, Ma petite cuisine potagère. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent d'ailleurs pour le dire, mais c'est ce que je voulais le faire. Allez. Merci beaucoup Sonia Esguignon.
À bientôt
d'avoir accepté mon invitation. C'est la fin de Nous voilà bien. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, eh bien, il y a l'application RTL et Radio Player France et nos réseaux sociaux pour les recettes. Donc, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre. Vous le savez, c'est votre magazine du partage et de la réflexion. La semaine prochaine, de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Retrouvez RTL vous régale juste après les infos. Prenez bien soin de vous et passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL, bien sûr. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.